Ces 102 heures dans l'eau, elles ont été assez difficiles, notamment sur le plan de la fatigue, qui était un des premiers signes et dangers finalement de cette traversée. Quand on ne dort pas vraiment pendant tout ce temps, on a énormément d'hallucinations. Donc ça a été très très dur pour moi de pouvoir savoir qu'est-ce qui était réel ou pas. Au départ, c'était juste de la modification de réalité, c'est-à-dire que ma ligne d'eau, je voyais un serpent par exemple. Et puis au fur et à mesure, c'était complètement fou, ma réalité complète était changée. Je voyais un château à la place du bateau. Et puis après, il y avait de fil en aiguille, on va dire, des choses de plus en plus folles. Je me voyais voyager, être dans des pays que j'avais jamais vus. Et ça a laissé place à des moments assez difficiles pour pouvoir me faire continuer de nager. On a quand même réussi à faire le maximum pour me faire arriver dans les eaux monégasques.
Est-ce qu'on arrive quand même à se reposer? Vous en parlez, on ne dort pas vraiment finalement pendant 102 heures, mais comment est-ce qu'on se repose?
Il y a deux méthodes pour pouvoir se reposer dans l'eau, puisque la seule règle, c'est de ne pas sortir de l'eau. La première, c'est de dormir sur le dos comme une loutre finalement. Donc on se met sur le dos, on ferme les yeux et on fait une micro-sieste de 7 minutes. Puis ensuite, vous avez tout ce qui touche le dormir en nageant. C'est une méthode qu'on a travaillée avec de l'hypnose qui paraît assez dingue. Ça consiste en fait à fermer les yeux. Une partie de votre cerveau est en train de récupérer, de s'endormir pratiquement, pendant que l'autre reste alerte avec la paupière fermée quant à l'intensité lumineuse de ma ligne en fait d'eau qui est à côté de moi. Plus c'est fort, plus ça veut dire que je me rapproche et que je vais me prendre la ligne. Plus c'est sombre, plus ça veut dire que je m'enfonce dans les profondeurs de la Méditerranée. Et donc, ça laisse place en fait à des petits ajustements pendant que l'autre partie de mon cerveau dort et récupère. On a découvert que c'était vraiment efficace parce qu'à la suite de ces périodes de dormir en nageant, j'ai moins d'hallucinations, ce qui veut dire que le cerveau finalement récupère, dort et se repose. Et en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres animaux qui arrivent à faire ça, notamment les dauphins, et que l'être humain est potentiellement capable de faire ce genre de choses et de pouvoir récupérer tout en étant en mouvement.
Vous êtes arrivé donc dans les eaux monégasques. Vous avez dû quand même être sorti de l'eau à quelques kilomètres de Monaco en raison de l'épuisement, de la douleur aussi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé?
J'étais à 2 km de l'arrivée, donc la plage du Méridien Beach Plaza à Monaco. C'était un moment très très difficile pour moi. Il y a beaucoup de bateaux qui sont venus me voir pour m'encourager pour les derniers kilomètres et ça m'a beaucoup beaucoup déstabilisé. Et donc, avec toutes ces hallucinations, la fatigue accumulée et le sel, qui est un des plus grands risques en fait de cette traversée, pour plusieurs raisons. La première, c'est les frottements avec la combinaison. Il y a des cristaux de sel en fait qui se forment sous la combinaison et qui font que chaque mouvement de bras, chaque mouvement de la combinaison en fait frotte la peau. Et j'ai été brûlée au deuxième degré à peu près à 15% de ma peau. La deuxième raison, c'est les micro-gorgées d'eau en fait que vous avalez pendant que vous passez tout ce temps dans l'eau. Et donc ces micro-gorgées d'eau, elles amènent du sel dans les poumons, ce qui bloque les alvéoles et rend en fait l'oxygénation du corps beaucoup plus difficile. L'équipage m'a sorti de l'eau et j'ai ensuite été hospitalisé pendant 9 jours entre l'hôpital de Monaco et le CHUV à Lausanne. Et puis ça va être le travail de l'après de se remettre et de se reposer après ce défi titanesque, historique pour la nature.